Chapitre 9. Une découverte. Lochnevinen, auberge de l'écu de France, 11 heures du soir. J'ai été obligé d'interrompre ma dernière lettre déjà bien longue. Les événements de cette nuit de mercredi m'avaient fatigué outre mesure. C'est à peine si j'ai eu hier la force de me traîner jusqu'au mur du jardin pour remettre ma missive à Jean-Marie. Je suis enchanté de mon petit messager. Il me paraît fort intelligent et fort discret. Je l'ai chargé pour le receveur de la poste d'un mot dans lequel je demande à ce fonctionnaire de vouloir bien remettre au porteur les lettres qui seront à mon adresse. D'ailleurs, je crois que je ne resterai plus bien longtemps ici. Je touche au terme de mon entreprise et, mort ou vif, vous me reverrez bientôt. Mais il faut que je reprenne mon récit où je l'ai laissé. La somnambule, après ce simulacre du crime, m'entraîna rapidement hors de la chambre dont elle ferma la porte à double tour. Elle marchait maintenant à grands pas, si vite que j'avais peine à la suivre. Elle remonta le petit escalier creusé dans le mur, et lorsqu'elle fut parvenue sur la dernière marche, elle s'arrêta subitement, et se serrant contre moi, elle murmura d'une voix étranglée « Entends-tu ? Entends-tu ? Ils sont à notre poursuite ! On nous a vus ! Nous sommes perdus !» Puis elle reprit sa course, courbée en deux, frémissante, les yeux hagards. Je la suivis jusqu'à sa chambre dans laquelle elle s'enferma. Une horrible expression de terreur était peinte sur son visage livide. Enfin elle se recoucha, ferma les yeux et monta jusqu'à sa bouche ses couvertures qu'elle mordit violemment. Je restai quelque temps debout près de son lit, la considérant avec attention. Bientôt, sa respiration devint plus calme, sa figure moins pâle. Je compris qu'elle s'était rendormie du sommeil naturel. Je laissai encore quelques minutes s'écouler, puis posant ma main sur son épaule, je la secouai vivement pour l'éveiller. Elle ouvrit les yeux et elle se mit tout à coup sur son séant. En m'apercevant près d'elle, elle eut un geste d'indicible frayeur. Je crus qu'elle allait pousser un cri. Je mis rapidement ma main devant sa bouche et je lui dis d'un ton ferme « Ne parlez pas ! N'appelez pas au secours, ce serait inutile ! Je suis maître de votre vie !»« Qui êtes-vous donc ? » fit-elle d'une voix sourde en fixant sur moi ses yeux égarés. « Je suis votre juge !» Elle tressaillit violemment. « Je connais votre passé, » repris-je d'un ton sévère. « Je connais votre crime. Je sais que, dans la nuit du 25 janvier 1836, vous avez assassiné votre maître. « Oh non, non, oh, ce n'est pas moi » cria-t-elle en se débattant. « C'est lui !»« Oui, je sais que vous n'étiez pas seul dans la chambre de M. Breaker-Guen. Je sais que vous aviez un complice. Il faut que vous me disiez le nom de ce complice. » Elle passa sa main décharnée sur son front couvert d'une sueur froide. « Son nom ? » murmura-t-elle d'une voix expirante. « Attendez, je vais me le rappeler. Il se nomme... » Elle n'acheva pas. Ses deux bras se raidirent convulsivement. Elle retomba lourdement sur l'oreiller, la tête renversée en arrière. Je la crus morte. En effet, aucun souffle ne soulevait sa poitrine. Ses mains et son cou étaient glacés. Cependant, en posant mon oreille contre son cœur, je crus entendre un faible battement. Je jugeai alors que la malheureuse était en proie à cette terrible maladie nerveuse qu'on nomme la catalepsie. Je me reculai et m'apprêtai à sortir de la chambre. Qu'avais-je besoin, après tout, de connaître le nom de l'assassin ? Ne l'avais-je pas deviné ? Ne savais-je pas qu'un seul homme était capable de concevoir un pareil enchevêtrement de crimes, de déployer à la fois tant d'audace et d'adresse ? J'allais donc me retirer et rentrer chez moi, lorsque je crus entendre dans le corridor ce pas inégal que je connaissais si bien et qui n'appartient qu'aux anciens matelots ou aux anciens forçats. C'était lui. Il revenait pour achever sa victime. La fuite était impossible. Je jetai un regard autour de moi pour chercher un lieu où je puisse me cacher. Enfin, je me glissai derrière un des grands rideaux de la fenêtre. Ces rideaux étaient très épais, sans doute pour empêcher que la lumière de la chambre ne fût aperçue du jardin. C'est de cette façon, vous le savez, que j'ai découvert la ruse du docteur Wickson. Il était temps, à peine le rideau était-il retombé, que la clé grinça dans la serrure et la porte s'ouvrit doucement. L'assassin paraissait très agité. Son visage était livide, ses sourcils contractés. Sa perruque grise posée de travers laissait échapper une longue mèche de cheveux noirs comme de l'ébène. Il s'approcha du lit à pas lents et, soulevant la petite lanterne qu'il portait à la main, il considéra attentivement le visage de la vieille femme. Son front s'éclaircit soudain et un soupir sortit de sa poitrine. Il la croyait morte, sans doute, et cette morte lui épargnait un crime. Il prit sa main glacée, la souleva et la laissa retomber. Il appuya son oreille sur cette poitrine de marbre. Puis il se redressa lentement, considéra encore sa complice avec un étrange sourire et sortit en dissimulant le bruit de ses pas. Lorsqu'il se retourna, je vis très distinctement une longue aiguille passer dans le parement de sa robe de chambre et qui brillait à la lueur de la veilleuse. Le lendemain, le terrible châtelain a voulu que je lui serve son déjeuner. Bien qu'épuisé par les émotions de la nuit, j'obéis, de peur de lui faire concevoir quelques soupçons. Pendant son repas, il m'examina fréquemment à la dérobée. Son regard perçant semblait chercher à pénétrer dans les plus secrets replis de mon âme. Au moment où il allait se lever de table, on frappa à la porte. J'allai ouvrir. C'était le vieux jardinier, Yves, qui apportait une lettre à l'adresse de M. Breac Ergen. Je jetai un regard sur la suscription. Je vis que cette lettre venait de Rennes. Mon maître la décacheta vivement. À ce moment, je passai derrière lui. J'aperçus au bas de la lettre une large signature et un paraphe compliqué qui me parut être celui de quelque notaire. Il lut deux fois cette épître avec la plus grande attention, puis se leva lentement et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il se rencontra avec moi, son regard se fixa sur le mien avec une certaine indécision. Il semblait avoir envie de m'adresser la parole, mais il réfléchit sans doute qu'il valait mieux garder le silence, car il me tourna brusquement le dos et sortit. C'est alors que je me traînai jusqu'au mur du jardin pour remettre à Jean-Marie la lettre que je vous avais écrite le matin. Quand je revins de cette expédition qui avait duré plus d'une demi-heure et qui avait achevé d'abattre toute l'énergie dont je m'étais armé, je rencontrai le vieux jardinier qui considérait l'ours Jaco d'un air mélancolique. Je m'approchai doucement de lui, il ne m'entendit pas venir. « Pauvre bête » murmurait-il en tenant l'animal féroce par un petit anneau d'or qui était passé dans son oreille velue. « Tu vas être bien malheureux hein, pendant 3 jours. Le maître a défendu de te donner à manger jusqu'à ce qu'il revienne. »« Comment » fis-je en mettant la main sur l'épaule du bonhomme. « Monsieur Breac Ergen s'est absenté ?» Oh, le vieil idiot poussa un grand cri. « Jésus m'a doué !» hurla-t-il en se dégageant de mon étreinte. « Le maître qui m'a recommandé de ne pas vous le dire, ou bien le bâton !» Il s'enfuit en levant un bras vers le ciel, tandis qu'il portait l'autre à son épaule, comme s'il eût senti à l'avance le terrible châtiment qui lui était promis. La vérité m'apparut dans tout son jour. Cette lettre reçue le matin mandait mon maître à l'instant même à Rennes pour terminer sans doute les affaires de la succession. Il est parti, précipitamment, pendant que je ne l'observais pas. Il a défendu qu'on me parle de son absence, de peur que, me voyant libre d'agir, je ne me livre à des recherches plus minutieuses et que je ne viole la défense qu'il m'a faite de sortir du château. Sa merveilleuse perspicacité lui a révélé qui je suis. Je n'en puis plus douter. Mais alors pourquoi me ménage-t-il? Pourquoi hésite-t-il à se débarrasser de moi, lui qui n'eût pas hésité à tuer cette malheureuse dont il avait fait sa femme si la mort n'avait pris soin de rendre ce crime inutile? C'est ce qu'il m'est impossible de deviner. Un sourd grondement de Jaco interrompit mes réflexions. L'ours se promenait dans la cage, le museau baissé vers la terre, le poil hérissé, il grognait d'un air affamé. Je me rappelais alors la révélation que le vieux jardinier venait de me faire involontairement. Le maître a défendu de donner à manger à Jaco jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce donc qu'à son retour il lui préparerait un repas de sa façon? Cette conclusion ne me parut point rassurante, et je résolus de ne pas laisser Jaco jeûner si longtemps. L'ours s'était dressé sur ses pattes de derrière et branlait sa grosse tête en me regardant avec de petits yeux qui n'avaient rien de tendre. Je fis quelques pas vers la cage. Le mouvement de sa tête s'accéléra. Il passa ses pattes à travers les grilles comme s'il eût voulu me donner une redoutable accolade. L'anneau d'or qui était fixé dans son oreille se trouvait déjà à portée de ma main. Je le saisis vivement et y passai mon doigt ainsi que le jardinier l'avait fait un instant auparavant. Aussitôt, la férocité de l'ours sembla disparaître. Il ferma les yeux d'un air paterne, retomba lourdement sur ses pattes et se coucha à mes pieds. Je possédais le moyen d'apprivoiser Jaco. C'était déjà un grand point de gagner. L'absence du maître me laissait au moins 3 jours de liberté. J'avais donc plus de temps qu'il ne m'en fallait pour me livrer aux perquisitions que je projetais. Cependant, j'étais si faible en ce moment que je me décidais à remettre l'entreprise au lendemain. Tout ce que je pus faire fut de monter les 2 étages et de me jeter sur mon lit. Je n'eus même pas la force d'aller jusqu'à la chambre de la malade, m'assurer que la mort n'avait pas encore succédé au sommeil cataleptique. Il était alors 3 heures de l'après-midi. Je dormis d'un sommeil profond et ne m'éveillai que le lendemain à 5 heures. Ma fièvre était moins forte. J'avais une grande lucidité d'esprit. Je sentais dans tous mes membres une vigueur extraordinaire. Je crois que l'espoir, où j'étais d'avoir bientôt la solution complète du mystère, avait beaucoup favorisé ma guérison. J'attendais avec impatience que le jour commençât à poindre. Lorsque les premiers rayons pâles et froids du soleil d'hiver pénétrèrent à travers mes vitres brillantes de givre, je me levai et m'habillai rapidement. Mon premier soin fut de me rendre dans la chambre où gisait la complice du bandit. Toujours la même apparence calme et glacée, le même silence, la même impassibilité. Puis je sortis de cette chambre et descendis dans la cour. Jaco était déjà levé et faisait entendre des plaintes bien naturelles de la part d'un ours qui s'était couché la veille sans souper. J'allai chercher dans l'office un gros quartier de viande et le lui jetai. Il me remercia par un hurlement de joie et se mit à le dévorer à belles dents. J'avais résolu de pénétrer dans l'appartement de l'assassin, car j'espérais y trouver quelques pièces à conviction, preuves matérielles, sans lesquelles la justice hésite presque toujours à agir. Je ne pouvais songer à entrer dans cette chambre par la porte, car la serrure était un secret et il en avait emporté la clé. Je voulus essayer d'y pénétrer par la fenêtre. Je vous ai dit, je crois, que devant la maison s'élève un grand sapin de Norvège dont les branches touffues effleurent les murailles et dont la cime élancée atteint la fenêtre de ma chambre. Je montai à cet arbre sans grande difficulté, car ses rameaux très rapprochés et ses branches droites formaient une sorte d'escalier assez praticable. Je parvins ainsi au premier étage. Je collai mon visage contre la fenêtre que je supposais être celle de la chambre à coucher du maître. Mais par malheur, les rideaux étaient tirés et si bien fermés qu'on ne pouvait distinguer l'intérieur de la pièce. Cette déception ne me décourage cependant pas, et je me mis à réfléchir mûrement au moyen le plus sûr de pénétrer dans la chambre sans laisser de traces d'effraction. Pendant que j'étais plongé dans ces méditations, perché sur mon arbre comme un nouveau Robinson, je levai par hasard les yeux au ciel, et j'aperçus à gauche de cette fenêtre une autre ouverture plus petite de forme carrée qui paraissait donner le jour à un cabinet attenant à la chambre. Je m'élevai encore un peu dans l'arbre jusqu'à ce que mon œil pût plonger par la lucarne. Mais le rideau de verdure était si épais au-dessus de ma tête que je ne distinguais rien. J'écartai les branches qui obstruaient de plus la lumière du ciel et regardai de nouveau. Au bout de quelques instants, et lorsque mes yeux se furent habitués à l'obscurité, je reconnus qu'en effet mes prévisions ne m'avaient pas trompé. Cette petite fenêtre éclairait un cabinet d'environ 2 mètres carrés. Il me sembla même apercevoir, sur la muraille gauche, une grande tache noire qui devait marquer la place de la porte de communication entre ce cabinet et l'appartement. Mon regard fut bientôt attiré par une autre tache blanche qui se dessinait dans un coin obscur en affectant une forme bizarre et indécise. On eût dit une immense toile d'araignée. C'était un squelette. Cette vue redoubla mon ardeur et donna un nouvel aliment à ma curiosité. Je voulus à tout prix pénétrer dans ce réduit mystérieux. Après quelques minutes de réflexion, j'adoptai un plan qui devait me permettre de m'y introduire sans laisser de vestige de mon passage. Je coupai avec mon couteau une des branches résineuses du sapin, celle qui me parut la plus sèche, et je l'allumai en battant le briquet. Puis j'attachai solidement à côté de moi cette torche enflammée. La fenêtre se composait de 4 petites vitres enchâssées dans du plomb. Je fis chauffer à blanc la lame de mon couteau à la flamme de la torche et j'en appliquai le tranchant contre le plomb qui scellait une des vitres. Ce ne fut qu'après bien des essais infructueux que je vis enfin le cadre de plomb complètement détaché tomber sur l'appui de la fenêtre. Je pris la vitre avec précaution et la déposai sur la saillie du mur. J'avais accompli ce travail avec l'habileté d'un voleur émérite. Je passai ma main par l'ouverture et fis jouer non sans peine le verrou rouillé qui fermait le châssis. La fenêtre s'ouvrit et une odeur pénétrante, semblable à celle qui s'exhale d'un caveau funèbre, vint frapper mon odorat. Je pris ma torche de résine et, me glissant par cette étroite fenêtre, je me trouvai bientôt dans un cabinet un peu plus long que large et dont les murs dénudés suintaient l'humidité. Je me dirigeai tout d'abord vers le squelette qui avait attiré mon attention. C'était celui d'un homme de haute taille, solidement charpenté. Je l'ai examiné très attentivement et je fus frappé de la forme singulière des 2 pieds. Ils étaient fort longs, et l'os supérieur dévié formait une proéminence très sensible. Vous savez que j'ai fait la même remarque lorsque, le jour de l'autopsie, j'ai levé le suaire qui couvrait les pieds de M. Bréa le Noir. Cette coïncidence me frappa. Je pris exactement la hauteur du squelette, puis je continuai mes investigations. Je ne remarquais pas sur les murs la moindre fissure qui pût me faire supposer qu'une cachette avait été pratiquée. Il s'était enduit d'un ciment très dur dont la surface était parfaitement unie. Comme j'achevais d'inspecter les murailles de ce caveau humide, mon pied heurta contre un obstacle. Je baissai aussitôt ma torche vers le sol et vis qu'un des carreaux rouges qui paraient le caveau avait été légèrement soulevé par le bout de mon pied. Je m'agenouillai et enlevai assez facilement ce carreau avec mes doigts. Un trou très profond et très étroit avait été pratiqué en cet endroit, et j'en tirai un sac de cuir long et mince, fermé par une coulisse. Je trouvai dans ce sac plusieurs objets. Je vais les énumérer en détail. Cette simple liste vous donnera une idée de l'importance de ma découverte. Premièrement, une trousse d'instruments de dissection de fabrication anglaise. Ils me parurent, malgré ma grande inexpérience en cette matière, admirablement confectionnés. Deuxièmement, un étui de cuir rouge de forme ronde, contenant 5 aiguilles très fines et très solides, dont la pointe était tachée de brun. La partie inférieure de cet étui se dévissait. J'y trouvais un petit flacon de cristal rempli d'une épaisse liqueur brune. Je mis précieusement cet étui dans ma poche. Troisièmement, 5 couverts d'argent au chiffre CB surmontés d'une couronne de comte. Quatrièmement, une bague ornée d'un superbe brillant. Cinquièmement, une montre en or avec un chiffre très enguirlandé surmonté d'un casque de chevalier. Je ne trouvais pas d'autres bijoux. L'assassin n'avait sans doute emporté que ceux qu'il n'avait pu vendre à Paris sans risquer d'être découvert, et il comptait probablement s'en défaire en Angleterre. J'avais été plus heureux dans mes recherches que je ne l'espérais d'abord. Cette dernière découverte me donnait enfin le fil qui devait me conduire sûrement à travers ce labyrinthe de crimes. Et si je n'en connaissais pas encore toutes les avenues tortueuses, je savais du moins quel avait été le point d'arrivée, et j'entrevoyais clairement les diverses étapes de la route. Chose étrange, je venais d'atteindre ce terme si ardemment désiré, et le résultat inespéré de mes recherches et de mes observations me laissait presque froid et insensible. Il me semblait, à cette heure de triomphe, que les déductions qui m'avaient conduit au but étaient venues à mon esprit naturellement et sans effort, et je perdis le souvenir du travail effrayant, des heures d'insomnie et de souffrance que m'avait coûté cette poursuite acharnée de la vérité. Kergen, 5 heures du soir. Jean-Marie m'a remis aujourd'hui la lettre dans laquelle vous m'annoncez que le docteur Wickson a disparu de la capitale et que vous n'entendez plus parler d'attaques nocturnes dans votre bonne ville de Paris. Cela ne m'étonne nullement. Vous savez pourquoi. Je vous remercie bien sincèrement des témoignages d'amitié que vous me donnez, du souci que vous prenez de ma santé. Hélas, je vous l'ai dit, cette énergie qui m'anime est toute à la surface, et lorsque l'œuvre à laquelle je me suis voué sera accomplie, je succomberai sans doute sous le poids de tant de fatigues. Cette lettre sera probablement une des dernières que je vous écrirai. J'attends le châtelain ce soir, le piège est dressé pour cette nuit, et dès qu'il sera entré dans les mains de la justice, je partirai pour Paris. Je vais reprendre mon récit au point où je l'ai laissé hier. Quand ma perquisition fut finie, je descendis de mon arbre, l'étui aux grandes aiguilles dans ma poche, et je remontai chez moi. Je grattai la pointe de ces aiguilles, qui étaient, comme vous le savez, enduites d'une matière brune, qui tomba en poussière, puis je vidai le flacon qui contenait le terrible liqueur et je le lavai soigneusement. Cette opération finie, je pris un peu de suie que je délayai dans de l'eau et je substituai ce liquide inoffensif au poison subtil que renfermait ce flacon. J'en enduisis également la pointe des aiguilles. Alors je redescendis et rentrai par le même chemin périlleux dans le caveau funèbre. Je remis tous les objets dans le sac de cuir et le sac de cuir dans la cachette, puis j'ajustai la petite dalle qui en masquait l'ouverture. Je me servis encore de mon couteau rougi à la flamme pour ressouder la vitre dans son châssis de plomb, et lorsque ce travail assez long fut terminé, j'effectuai ma descente à travers les branches touffues du sapin. Il était midi et demi. C'était l'heure du rendez-vous quotidien que j'avais assigné à Jean-Marie. Je trouvai mon petit Breton fort en peine. L'eau du vivier était gelée, et il lançait de grosses pierres pour briser la glace qui lui dérobait sa proie journalière. « Bonjour, monsieur Pierre, me cria-t-il de sa voix argentine. Vous n'êtes donc plus malade ? Non, mon garçon, je te remercie, je vais beaucoup mieux. Eh bien, alors la pêche ne donne donc pas aujourd'hui ? Oh, c'est un vrai malheur, dit-il avec dépit, en passant les mains dans son épaisse chevelure blonde. Cette glace est plus dure que les pierres. Tenez, voyez, elle glisse dessus, sans la casser. C'est que le vieux Ruc est bien malade, et s'il lui rapporte pas quelque chose, il pourrait bien mourir, allez, le pauvre homme. » Je compris cet appel indirect à ma générosité. Je lui donnai une pièce d'argent pour le vieux Ruc et une autre pour lui. Cette prodigalité de Nabab lui fit pousser une exclamation de surprise et ses yeux pétillèrent de joie. Je lui remis ma lettre en lui recommandant encore la plus grande discrétion. Puis je lui demandai « Sais-tu quelle distance il y a d'ici à Lochnevinen ?» Lochnevinen est le chef-lieu d'arrondissement. Le bambin réfléchit quelques secondes. « Ma foi, répondit-il, je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu dire qu'il y avait deux bonnes lieues et demie, près de trois lieues. Connais-tu dans ce pays un voiturier qui puisse m'y conduire ?»« Comment ? Vous voulez sortir du château ?»« Oui, le maître m'a donné 2 jours de congé, je désirerais voir la ville. » « Vous voudriez partir tout de suite ?»«
Oui. »«
Attendez, il y a bien le Charron qui a un cabriolet et un bon cheval. C'est lui qui conduit M. Kergen lorsqu'il va par hasard en course. Mais le Charron est parti justement hier vers midi pour la ville. Il n'est pas encore revenu. Ah, il y a encore le père Claude qui a un cheval pour son moulin. Par exemple, il n'a pas de voiture. »
« Peu importe, je prendrai le cheval tout seul.
Ben, »« Je vais aller lui demander, si vous voulez. »«
Non, j'irai avec toi. Demeure-t-il loin, le père Claude ?»«
Oh, une petite demi-heure d'ici, tout au commencement du bourg. »«
C'est bien, va m'attendre au bout de l'allée des châtaigniers, je te rejoins dans 10 minutes. »
Cette course à travers la saine campagne bretonne et le gentil babi de mon guide achevèrent de dissiper les dernières traces du malaise qui la veille m'accablait si cruellement. Le père Claude ne fit aucune difficulté pour me louer son cheval pendant 2 jours. Son moulin ne marchait plus, car la rivière était gelée, et le meunier n'était pas fâché, je crois, de me charger durant 24 heures de la nourriture de sa bête. Je me fis désigner exactement la route et le meilleur hôtel de la ville, et grâce aux jambes de fer de mon cheval, j'arrivai avant 3 heures à l'auberge de l'Écu de France, située sur la place de Lochnevinen. J'ordonnai qu'on me servît à la hâte à déjeuner, car depuis le matin j'étais à jeun, puis je demandai à l'aubergiste de m'indiquer où se trouvait le tribunal de première instance. L'amphitryon me montra sur la place un monument de forme carrée, au mur noirci par le temps.
« C'est là, me dit-il, monsieur y verra une belle épée à 2 mains, qui qui servait à couper les têtes avant qu'on eût inventé la guillotine. Je remerciai l'aubergiste de ce renseignement historique, et je me rendis au tribunal où je demandai à parler au juge d'instruction. Monsieur Donneau, juge d'instruction près le tribunal de Lokvinen, est un jeune homme de 30 ans à peine. Son regard vif et brillant révèle l'énergie et l'intelligence. Ses manières sont pleines de courtoisie. On voit au premier coup d'œil qu'il doit apporter dans le difficile métier qu'il exerce autant de finesse que de décision. « Monsieur, lui dis-je sans préambule, en prenant place près de son bureau, vous avez sans doute entendu parler, il y a une dizaine d'années, de crimes audacieux commis à Paris par une bande que commandait un certain Boulet Rouge. Oh, « Certainement, monsieur, répondit le jeune magistrat, qui parut un peu surpris de ma question. Cette affaire a fait grand bruit autrefois, et j'étais plus à même que personne d'en connaître les détails, car mon père présidait les débats. » Il me dit son nom, et je me rappelais en effet que le magistrat qui présidait la session où je fis mes premières armes s'appelait monsieur Donneau. « Alors, monsieur, repris-je, puisque vous connaissez cette affaire, vous devez savoir que le chef qui conduisait ces brigands avec une si prodigieuse habileté a échappé aux poursuites de la justice. En effet, on a même cru qu'il avait été tué par sa bande. Eh bien, monsieur, je viens vous apprendre que cet homme existe et vous offrir de le remettre entre vos mains. » Le juge d'instruction me regarda d'un air stupéfait. Je commençai alors le récit que vous connaissez, depuis la visite domiciliaire faite dans la nuit du 3 janvier par M. Bienassi dans la chambre de Louis Guérin, jusqu'à la perquisition opérée par moi dans le caveau secret de l'assassin. Tandis que je parlais, le magistrat me regardait avec cet air naïvement étonné que prennent les enfants quand leur grand-mère leur raconte les merveilleux événements d'un conte de fées. Quand j'eus achevé de dérouler devant ses yeux le tableau sombre et saisissant de ma lutte contre cet homme, M. Donneau me serra la main avec émotion et m'exprima tout l'intérêt que lui avait procuré mon étrange odyssée. Le jeune magistrat ne pouvait dissimuler la joie qu'il ressentait d'entreprendre au début de sa carrière une campagne qui promettait d'être couronné de succès contre un bandit si célèbre et si redouté. Il prévoyait le retentissement qu'allait avoir cette affaire et savourait à l'avance la gloire qui ne pouvait manquer de rejaillir sur son nom. « Et vous êtes certain qu'il reviendra demain ?» me dit-il après un instant de réflexion. C'est exactement le temps qu'il faut pour aller à Rennes et en revenir, et je ne crois pas qu'il s'attarde longtemps en route. Vous connaissez mieux que moi ses habitudes et la disposition du château. Quel plan croyez-vous être le meilleur pour nous emparer de lui sans coup férir ? Je lui exposai en quelques mots les dispositions auxquelles je m'étais arrêté après mûre réflexion et qui me semblaient les plus sûres et les plus rapides. Il les approuva vivement et me dit qu'il voulait conduire lui-même une entreprise de cette importance. Il me reconduisit avec force poignée de main et des félicitations sans nombre, telles qu'on sait en adresser à un homme auquel on va devoir sa fortune. Comme je sortais du cabinet du juge d'instruction, 6 heures sonnaient à l'antique église de la ville. La nuit était tellement noire qu'on distinguait à peine les portes enfoncées des maisons et leurs toits posés de travers. Je jugeais plus prudent de ne pas retourner à Kergen ce soir-là. Les chemins étaient mauvais, et par une obscurité si épaisse, je craignais de m'égarer et de tomber dans quelque fondrière. Je me rendis donc à l'auberge de l'Écu de France et me fis servir à dîner, sans oublier de recommander le cheval du père Claude aux bons soins de l'hôtelier. Ensuite, je m'enfermai dans ma chambre pour vous écrire. Je me couchai enfin car j'étais épuisé de fatigue et dormi d'un sommeil très agité. Ce matin, à 8 heures, je trottais de toute la vitesse des petites jambes de mon cheval sur la route de Lochnevinette à Kergen. Près du bourg, je rencontrai Jean-Marie, qui poussa des cris de joie en m'apercevant et souleva dans ses bras sa petite sœur qui l'accompagnait en lui disant de me souhaiter le bonjour. Je descendis de cheval et tirai l'enfant à part. « Tu vas monter sur le bidet avec moi, lui dis-je, et quand nous serons arrivés au château, tu le ramèneras au père Claude. » Il m'obéit et s'installa avec moi sur la selle. Chemin faisant, je lui dis « Jean-Marie, je vais bientôt quitter le pays. Comme tu as toujours montré beaucoup de zèle et d'intelligence dans les commissions dont je t'ai chargé, je veux, avant de partir, te laisser un souvenir. Mais il faut que tu me rendes un nouveau service. Écoute-moi bien et retiens ce que je vais te dire. Tu te tiendras ce soir, depuis 9 heures jusqu'à minuit, sur la colline de Lavandière. Tu emporteras avec toi une corne de bouvier, et lorsque tu verras briller de la lumière à la fenêtre du château qui est au-dessus du grand sapin, tu souffleras dans ta corne de toutes tes forces et à plusieurs reprises. » L'enfant se retourna sur la selle et me regarda les yeux et la bouche grands ouverts. « Tu sais que j'exige de toi la plus grande discrétion. Aussi promets-moi de faire ce que je te demande sans en rien dire à qui que ce soit. » Il partit d'un grand éclat de rire. « Ah, ma douée, vous avez là une drôle d'idée !» s'écria-t-il. « Mais j'ai dit que je ferai tout ce que vous voudriez, hein, si vous pouvez compter sur moi. J'emprunterai à Eudriou sa grande corne qu'on entend à une lieue par le beau temps. Je me glisserai à 9 heures par la fenêtre de l'étable, je gagnerai le clos des Lavandières, et de là, je regarderai du côté du château. Craignez rien, j'ai de bons yeux, et je verrai bien la lumière. » Nous étions arrivés au bout de l'allée de châtaigniers. Je sautai à bas de cheval et déposai Jean-Marie à terre. « Tiens, lui dis-je, tu donneras ceci au père Claude pour le loyer de son cheval, et tu garderas cela pour toi. Si tu fais bien ce que je t'ai recommandé tout à l'heure, tu auras pour récompense 10 pièces d'argent semblables à celle-ci. » Je laissai l'enfant tout ébahi, se confondre en remerciements et en protestations de dévouement, et j'entrai dans le château. Chapitre 10. La piqûre d'aiguille. Tribunal de première instance à Lochnevinen, cabinet du juge d'instruction. Il fit hier soir une tempête effroyable. Le vent soufflait avec violence et les flocons de neige poussés par l'ouragan entraient par la fenêtre et venaient me battre le visage. Il était 7 heures du soir lorsque je me mis à mon poste d'observation. Mes yeux finirent par s'habituer à l'obscurité. Je pus distinguer à travers ce rideau de neige et de ténèbres la grille du jardin. Jaco errait autour de la maison en poussant des hurlements sinistres. J'avais heureusement pu dérober encore à l'office un gros quartier de viande et je lui avais jeté pour calmer sa fureur. Le temps s'écoulait lentement. Chaque minute me paraissait un siècle. Une angoisse terrible commençait à s'emparer de moi. Je repassais dans mon esprit le plan que j'avais imaginé pour m'emparer du bandit. J'en trouvais toutes les dispositions mauvaises. Je craignais qu'il n'avortât et que l'assassin n'échappât encore une fois à la justice. S'il allait ne pas revenir, et si ce voyage n'était qu'une ruse habile pour dérouter les soupçons dont il se savait être l'objet. Peut-être, au milieu de prendre le chemin de Rennes, a-t-il pris celui de Brest. Peut-être, au moment où je l'attends ici pour le saisir dans son repère, s'échappe-t-il sur un vaisseau qui le conduit au-delà de l'océan. Toutes ces réflexions se présentaient à mon esprit
et me faisait paraître plus longues et plus cruelles les heures de l'attente. 10 heures sonnèrent. Tout à coup, il me sembla voir à travers l'obscurité si épaisse une petite lumière faible et vacillante qui s'avançait lentement et marquait sa traînée lumineuse sur la neige du jardin. Je regardais plus attentivement en me penchant hors de la fenêtre. La lumière avait disparu. « Oh, j'ai eu une hallucination, » pensais-je, et je poussai un soupir de découragement. Cependant, mes yeux n'avaient pas quitté la place où j'avais vu disparaître la trace lumineuse. Il me sembla qu'à cet endroit, l'obscurité était plus épaisse. Je distinguais sur la neige une grande tache noire. Puis cette tache parut se séparer en deux. Ben, « il a un complice, » me dis-je. « Tout est perdu. » Un grognement prolongé qui parvint jusqu'à mon oreille me rassura. Ce complice, c'était Jaco, qui venait présenter ses respects à son maître. En effet, je revis bientôt la lumière de la lanterne sourde recommencer sa marche. Elle franchit la porte de la cour et se dirigea vers le coin obscur où se trouvait la cage de l'ours. Il va s'assurer que ses ordres ont été exécutés, pensais-je, et que Jaco est bien réellement à jeun depuis 3 jours. Enfin, la lumière s'avança toujours avec la même lenteur et la même circonspection vers la maison, et j'entendis la porte du château se fermer doucement. Alors je pris la lampe que j'avais cachée derrière les rideaux de mon lit, et je la levai 3 fois en étendant le bras dehors de la fenêtre. J'attendis quelques minutes. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. « Pourvu que Jean-Marie soit à son poste, » me dis-je en recommençant le signal. Un beuglement plaintif retentit au milieu du fracas de la tempête. C'était dans la direction du clos des Lavandières. Le même bruit sourd et prolongé se fit entendre 4 fois encore. Alors, du haut de mon observatoire élevé, je vis une fusée rouge tracer dans l'air son sillon lumineux à 1 lieue environ du château. C'était le signal convenu avec le juge d'instruction qui attendait le moment propice dans une auberge de Locquart. Je refermai ma fenêtre et éteignis ma lampe. Cependant, je voulus m'assurer que c'était bien le bandit qui venait de rentrer au château. Je sortis donc de ma chambre en suivant le mur à tâtons afin d'aller écouter si j'entendais quelque bruit dans son appartement. Au moment où, arrivé au bout du corridor, je posais le pied sur l'escalier, le bruit d'une porte qu'on fermait se fit entendre au premier étage et en même temps une marche lente et inégale retentit dans le silence de la nuit. J'avais heureusement pris la précaution de me déchausser et je pus regagner ma chambre sans faire de bruit. Je me glissai dans mon lit, je ramenai mes couvertures jusqu'à mon menton et feignis de dormir. Au bout d'une minute environ, le promeneur nocturne passa sans s'arrêter devant la porte de ma chambre. Il ouvrit doucement celle de sa complice. Quelque temps après, je l'entendis revenir de chez la morte. Il introduisit doucement une clé dans ma serrure, ouvrit ma porte, s'avança jusqu'à mon lit et je sentis la lumière de sa lanterne sourde glisser sur mes paupières fermées. Il marcha quelques instants dans ma chambre et parut y faire une perquisition minutieuse. Puis j'entendis la porte se refermer. Je jugeai qu'il venait de sortir de chez moi. Cependant, quelque attention que j'y prêtasse, il me fut impossible de percevoir le bruit de ses pas dans le corridor. Il régnait un silence profond, interrompu seulement par les rafales du vent. Je restais encore couché, ne
de peur qu'il ne lui prît la fantaisie de revenir. Tout à coup, je sentis une main se glisser sous mes couvertures. Mon pied droit fut saisi comme dans un étau, et au même instant je ressentis au talon une piqûre aiguë. Je jetai un grand cri et m'évanouis. Cette défaillance, causée par la surprise que j'avais éprouvée et qu'expliquait l'irritation nerveuse qui s'était emparée de moi depuis 2 heures, me sauva la vie. Car l'assassin, me voyant livide, inanimé, me crut mort et quitta la chambre. Lorsque je revins à moi, mon premier mouvement fut de courir à la porte que je barricadais solidement. Puis je regardai la légère blessure que j'avais reçue au talon. Quelques gouttes de sang s'en échappaient, mêlées à une liqueur brune que je reconnus pour l'inoffensif mélange de suie substitué par moi au terrible curare. J'armai alors ma main de pistolet que je glissais dans ma poche. J'étais bien décidé, si l'assassin revenait, à lui brûler la cervelle, dussé-je ravir à M. Donneau la gloire de prendre vivant ce redoutable bandit. Ma montre marquait 11 heures. Il y avait déjà 1 heure que j'avais donné le signal. Le moment approchait où une lutte décisive allait s'engager entre l'assassin et celui dont il croyait avoir fait sa victime. Je frémissais d'impatience. Il me semblait que M. Donneau tardait bien à venir. J'ouvris ma fenêtre avec des précautions infinies et j'écoutai attentivement si, au milieu du fracas de l'ouragan, je n'entendais pas le signal qui devait m'annoncer la présence du juge d'instruction et de ses acolytes. Un quart d'heure s'écoula. Enfin, au moment où le vent commençait à mugir avec moins de violence, je crus entendre un sifflement doux et prolongé que je pris d'abord pour le dernier soupir de la tempête. Mais ce coup de sifflet se répéta 3 ou 4 fois encore avec plus d'intensité. Il venait du jardin où se trouvait le vivier. Le doute n'était plus possible, c'était M. Donneau et ses hommes. Je tirai un des draps de mon lit et le tordis rapidement de manière à en faire un câble solide. J'attachai ce câble improvisé à la barre de fer de ma fenêtre et je me laissai glisser le long du mur jusqu'à ce que je sentisse à portée de ma main l'une des longues branches du sapin. Je me cramponnai à cette branche et j'y attachai solidement, le plus près possible du tronc de l'arbre, l'autre extrémité du drap. J'avais établi de cette façon un pont suspendu entre le sapin et la fenêtre. Puis je descendis le long de l'arbre et me dirigeai en toute hâte du côté du mur du jardin. À moitié chemin, je fus arrêté par un grognement formidable. C'était Jaco qui s'était couché sous un massif d'arbustes et qui, se levant à mon approche, venait me barrer la route. J'essayai de lui parler doucement pour le faire taire, mais l'ours était de mauvaise humeur d'avoir été tiré de son sommeil, et il répondit à mes flatteries en se dressant sur ses pieds de derrière et en s'avançant vers moi pour me serrer dans sa redoutable étreinte. Lorsqu'il fut à 1/2 mètre de ma poitrine, je passai brusquement ma main sur l'épaisse toison de son front et je saisis l'anneau qui traversait son oreille. L'ours fit entendre un grognement de colère étouffé, retomba lourdement sur ses 4 pattes et se coucha à terre. Je sus en ce moment un gré infini à l'assassin pour la manière vraiment merveilleuse dont il avait dressé Jaco. Il était devenu plus doux qu'un mouton. Je passai ma ceinture dans l'anneau de son oreille et je l'attachai solidement au pied d'un arbuste. Jaco poussa encore un petit grognement qui ressemblait à un soupir de résignation et s'étendit tout de son long dans la neige. Je m'empressai alors de courir vers le mur du jardin. Quelques pierres s'étaient détachées de leurs alvéoles de ciment, et je pus me hisser jusqu'à la crête du mur. « Êtes-vous là ? » demandai-je doucement. « Oui, me répondit une voix que je reconnus pour celle du jeune juge d'instruction. Pouvons-nous entrer? Nous n'avons pas un instant à perdre, venez vite.
Au bout d'une minute, le juge d'instruction et les 5 gendarmes qui l'accompagnaient avaient franchi le mur et se trouvaient réunis près du vivier.
C'est bien, dis-je, lorsque je les vis au complet. Suivez-moi sans faire de bruit et en vous courbant vers la terre.
Nous longeâmes le mur jusqu'à ce que le château se présentât à nous de profil. Nous marchâmes alors en ligne droite vers l'angle de la maison qui était le plus rapproché de nous. De cette façon, il était impossible qu'on nous aperçût des fenêtres de la façade. Puis nous nous glissâmes le long des murailles jusqu'à ce que nous fûmes arrivés au pied du grand sapin. Là, nous fîmes halte et nous tîmes conseil à voix basse. Il fut convenu que je servirais d'éclaireur à la petite troupe, et je commençai le premier l'ascension, suivi du juge d'instruction et de ses braves gendarmes, qui, en vue de cette périlleuse entreprise, avaient ôté leurs sabres et n'avaient gardé que leurs pistolets. Nous montâmes très lentement et avec les plus grandes précautions. Au moment où j'arrivais à la hauteur du premier étage, en face de la fenêtre de l'assassin, cette fenêtre s'ouvrit brusquement. Il apparut en robe de chambre, la tête enveloppée d'un foulard, et s'accouda à son balcon en fumant tranquillement sa pipe. Son visage n'était pas à 1 mètre du mien. Je me dissimulais derrière le tronc de l'arbre, dont heureusement les branches étaient très touffues. L'orage avait cessé. Un silence solennel succédait au fracas du vent. Si, à ce moment, l'un de nous, vaincu par la fatigue, avait lâché la branche à laquelle il se tenait cramponné, c'en était fait de notre entreprise. La brise souleva un des rideaux de la fenêtre. J'aperçus, à la lueur d'une bougie qui brûlait sur la table, plusieurs instruments de dissection et une petite meule en pierre grise. Le docteur Wickson préparait quelques travaux anatomiques, et je devinais bien vite quels étaient les 2 sujets choisis pour ces expériences. Lorsqu'il eut fini d'aspirer les dernières bouffées de tabac qui devaient rendre à son esprit le calme nécessaire pour se livrer à ses importantes occupations, il secoua sur la barre du balcon les cendres de sa pipe et referma la croisée. Je recommençai l'ascension et j'arrivai 5 minutes après à mon pont aérien dont j'examinai attentivement les attaches et que je franchis après m'être bien assuré qu'il était assez solide pour livrer passage à mes 6 compagnons. « Ouf !» me dit le juge d'instruction en sautant après moi dans la chambre. « Nous l'avons échappé, belle !» Les yeux du jeune magistrat étincelaient de plaisir. Il y avait dans toute cette affaire quelque chose d'extraordinaire et de chevaleresque qui paraissait beaucoup le séduire. Nos gendarmes se rangèrent en cercle autour de nous et j'allumai leurs lanternes en leur recommandant bien de tourner la lumière du côté de leur poitrine. Cet avis ne fut pas inutile car nous entendîmes bientôt retentir dans le corridor le pas de l'assassin. Il ne prenait même plus le soin d'étouffer le bruit que faisaient ses souliers sur les dalles. Je posai la main sur le bras du juge d'instruction. Son cœur battait avec force, mais son visage exprimait toujours la même fermeté et le même courage.
« Il tombe lui-même dans le piège, lui dis-je à voix basse. Nous n'aurons même pas besoin d'aller le relancer dans sa tanière. »
Mais l'illustre docteur passa devant la porte de ma chambre sans y entrer et se dirigea toujours boitant vers celle de sa complice. Je débarrassai alors rapidement ma porte que j'avais eu soin de barricader et nous nous avançâmes sans faire de bruit dans le corridor. Je plaçai mes hommes sur 2 rangs. Ils tenaient ainsi toute la largeur du couloir. Monsieur Deneau et moi, nous nous mîmes à leur tête. Tout à coup, un cri strident, horrible, retentit dans la chambre de la morte. Un bruit de pas précipités se fit entendre, et nous vîmes l'assassin fuyant, les yeux hagards, les bras étendus, et derrière lui, la poitrine déchirée et couverte de sang, une femme de haute stature que je n'eus pas de peine à reconnaître. « Halte !» cria M. Donneau d'une voix forte. Boulet Rouge fit un soubresaut et s'arrêta court. Nous avions dirigé vers lui le rayon de nos lanternes, et il nous apparaissait en pleine lumière. Cependant, il s'était vite remis de l'émotion que lui avait causée la résurrection d'Yvonne. Il se croisait les bras et son œil n'exprimait pas la moindre frayeur. Il paraissait se demander s'il ne pourrait forcer cette muraille vivante et nous échapper par la violence. Mais il réfléchit sans doute que la lutte ne serait pas égale. Il fit quelques pas vers nous, et se tournant de mon côté, « Allons, dit-il avec ironie, c'est aujourd'hui le jour des résurrections. J'ai perdu la partie, monsieur de la préfecture, et je dois payer. » Il me tendit avec une courtoisie affectée une de ses larges mains, de l'autre fit sauter sa perruque grise, et redressant sa haute taille, il nous regarda d'un œil calme et fier. C'était un homme de 45 ans environ, aux cheveux noirs et crépus, au visage dur, mais d'une grande beauté, aux formes athlétiques. On lui mit les menottes sans qu'il opposât la moindre résistance. Cependant, la mourante s'était crénée jusqu'à lui en chancelant et se cramponnait à son épaule. « Assassin ! Assassin ! » criait-elle dans le délire de la folie. Oh, c'était un horrible spectacle. « Débarrassez-moi de cette femme !» dit Boulet Rouge d'une voix sourde, en secouant les épaules pour se soustraire à ses étreintes. J'ordonnai à deux gendarmes de s'emparer d'Yvonne et de la porter sur son lit avec précaution. J'entrai derrière eux dans la chambre. Le lit était défait et les couvertures traînaient à terre. Sur le parquet brillait une lame d'acier. C'était un scalpel. Lorsque la malade fut étendue sur le lit, je m'approchai d'elle pour examiner sa blessure. Le scalpel avait pénétré profondément dans la poitrine. Mais la douleur avait été assez vive pour tirer Yvonne du sommeil cataleptique dans lequel elle était plongée depuis 3 jours. Je lavai cette blessure et y mis une compresse d'eau froide. Le pouls de la malade était plus calme. À l'exaltation, au délire, succédait maintenant un état de faiblesse et d'abattement. Lorsque je rejoignis le juge d'instruction, je le trouvai en train de faire une perquisition dans la chambre que le bandit avait occupée pendant 10 ans. Cette chambre, fort spacieuse, était toute tendue de tapisseries de couleur sombre. Au fond s'élevait un grand lit carré, et sous ce lit, on trouva une malle assez volumineuse, contenant plusieurs déguisements et quelques perruques, parmi lesquelles je reconnus les cheveux rouges du docteur Wickson. Cet étrange personnage s'était jeté dans un grand fauteuil de cuir, et avait invité par un geste gracieux les gendarmes qui l'entouraient à prendre un siège à côté de lui. À toutes les questions que lui adressait M. Donneau, il opposait le mutisme le plus profond. Le juge d'instruction me demanda de lui indiquer de quel côté se trouvait la cachette. Je soulevai la tapisserie et lui montrai une porte en chêne massif dissimulée sous la tenture. Comme le prévenu refusait de donner la clé de cette porte, le magistrat ordonna d'employer la violence pour l'arracher de ses gonds. Quand la porte fut tombée, sous l'effort des robustes épaules des gendarmes, nous pénétrâmes dans le caveau de l'assassin. Je soulevai le carreau mobile et tirai le grand sac de cuir dans lequel se trouvaient les divers objets que je vous ai énumérés. Il ne manquait à la collection que l'étui au curare et la boîte à dissection. Ensuite, M. Donneau ordonna d'apporter le squelette au milieu de la chambre.
et se tournant vers Boulet Rouge. « Voulez-vous enfin répondre à mes questions ?» fit-il avec impatience. « Et me dire depuis quand ce squelette se trouve dans le caveau ?» Le bandit releva la tête. « Je vais vous le dire, répondit-il, ce squelette est celui de M. Bréal Kergen. Je l'ai disséqué et préparé moi-même, ce qui a procuré à Jaco un excellent repas. Il n'y a pas un seul fil de fer. Tous les ligaments sont naturels. Oh, c'est un beau travail d'anatomie. » Il fit une pause, puis se tournant vers moi. « Cela vous étonne, n'est-ce pas, monsieur de la préfecture, de m'entendre faire cet aveu? Vous êtes habitué à avoir affaire à des gens auxquels vous êtes obligé d'arracher les paroles une à une. Eh bien, désormais, je répondrai à toutes vos questions. Je vous donnerai toutes les indications et tous les détails que vous me demanderez. Je suis bien résolu, d'ailleurs. Je n'ai rien à cacher. Tout ce que j'ai fait a été bien fait. Et puis je suis là de la vie. Mon père m'a toujours dit que je mourrais sur l'échafaud. Ma foi, autant là qu'ailleurs. On meurt sur une estrade aux applaudissements de la foule, c'est moins vulgaire que de finir dans son lit. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour m'introduire ici, pour aller ensuite à Paris recueillir la succession de mon cher frère, pour trouver de l'arsenic dans son corps et pour avoir l'honneur de faire avec vous une partie d'écarté chez madame la comtesse de Bréant? Faites vos questions, je répondrai. Mais avouez que c'était bien joué, et que si la préfecture ne m'avait pas décoché son jeune premier, je menais la vie la plus douce du monde. » Il s'était levé et avait débité ses paroles avec une emphase qui me rappela le charlatanisme du docteur Wickson. Le juge d'instruction me pria ensuite de lui montrer la chambre où avait eu lieu le crime. Je l'y conduisis aussitôt. Boulet Rouge nous suivait, escorté des 5 gendarmes qui le serraient de près. J'avais repris la clé de cet appartement entre les mains d'Yvonne. Au moment où j'ouvris la porte, et lorsque l'assassin aperçut, après ces 10 années écoulées, la chambre telle qu'elle était la nuit du meurtre, il ne put s'empêcher de tressaillir. Son regard se troubla. Il murmura: « Elle m'avait dit que tout avait été remis en place et que la clé était perdue. »« C'est bien ici, demanda M. Donneau, que vous avez tué M. Bréac Kergen ?» Boulet Rouge ne répondit pas et se contenta de faire un signe affirmatif.